Bonsoir. Je vais démarrer, non pas par manque de politesse vis-à-vis de ma collègue, mais parce que je campe les lois avant même qu'elle les illustre dans la pratique des soins palliatifs, essentiellement à domicile, étant entendu que moi je suis en institution depuis donc 17 ans en soins de longue durée, avec, faut-il s'en vanter, je ne sais pas, un décès par semaine en moyenne. Nous avons plusieurs lois récentes à l'échelle d'une génération, qui sont d'abord la loi de 1999 relative aux soins palliatifs, et puis la loi qu'on appelle la loi Kouchner de mars 2002 qui concerne aussi cette phase-là de la vie, et bien sûr la fameuse loi Leonetti du 22 avril 2005 avec les décrets d'application du 6 février 2006. Les principes de ces lois, et essentiellement de la loi Kouchner et de la loi Leonetti, c'est qu'elles reposent sur le concept d'autonomie, à savoir que c'est le patient devient un interlocuteur, je dirais, valable. Alors, ça veut dire quoi? Il n'était pas avant? Si, mais enfin, il le devient davantage. Il est l'interlocuteur, à savoir qu'il doit être informé et sa volonté doit être respectée quand il est conscient ou lucide. Conscient, ça veut dire pas dans le coma, lucide, sous-entendu, ça veut dire pas atteint, par exemple, gravement par la maladie d'Alzheimer. Et donc, la possibilité aussi, dans ces lois, de la désignation d'une personne de confiance, ça c'est la loi de 2002 qu'il avait déjà tracée, la loi de 2005 l'a précisée pour ce qui est du domaine de la fin de la vie, les directives anticipées, qui ont été, elles, pour le coup, en France, édictées lors de la loi Leonetti de 2005, et également la possibilité pour les médecins de limiter les soins qui prolongent la vie et celle d'utiliser les thérapeutiques de confort qui sont susceptibles de la raccourcir. C'est la loi Leonetti. Clairement, nous le faisions avant qu'il y ait une loi, mais il est évident qu'une loi nous conforte dans une attitude qui est une attitude résolument axée vers le confort à la fin de la vie et l'intérêt que l'on peut porter à une médecine qui va au-delà de l'échec de la guérison par les traitements dit curatif, c'est-à-dire qui vise à guérir à proprement parler la personne. Et puis il y a également la définition de ce qu'on appelle une procédure collégiale et enfin l'inscription dans le dossier du malade. Alors sur quoi reposent finalement ces lois? Sur des peurs qui sont plus ou moins présentes suivant bien sûr les personnes, suivant les philosophies, suivant les trajectoires de vie qui sont par exemple la peur de mourir souvent cachée, difficile simulé, y compris chez les très grands vieillards. Je crois qu'il ne faut pas se laisser abuser par une soi-disant sérénité du très grand âge qui peut masquer la peur de la mort, la peur de souffrir dont on peut dire qu'elle est unanimement revendiquée par tout un chacun, la peur de ne plus pouvoir exprimer sa volonté, donc de ne plus être en maîtrise sur la situation, la peur de l'acharnement thérapeutique, notion extrêmement vague, souvent définie a posteriori, puisque personne n'a l'intention, pas même ma collègue ici présente et moi-même, de s'acharner, mais aussi, on pourrait dire au contraire, encore que ça soit pas le contraire, mais c'est considéré souvent comme le contraire, la peur aussi de l'euthanasie, c'est-à-dire je rentre dans une maison de retraite, est-ce que par hasard on ne fait pas, sans le dire, des piqûres qui vont raccourcir ma vie parce que, et voilà, je ne sers plus à rien, je suis inutile. On a peut-être décidé, sans que jamais je ne l'exprime clairement, que j'étais de trop sur cette terre. Et puis aussi la peur d'être abandonné et la peur de mourir seul. Nous verrons tout à l'heure que la mort solitaire est un phénomène historiquement relativement nouveau, au moins d'une manière qui pourrait apparaître comme massive. Et quant aux attentes qui sont fondées sur ces peurs, c'est bien sûr, comme dirait la Palice, être soulagé de la souffrance, c'est pouvoir refuser ou arrêter un traitement quel qu'il soit, c'est être entouré et accompagné, mot fort à la mode mais dont on voit qu'il y a encore bien du chemin à faire, c'est le fait d'être écouté, ça peut vouloir dire aussi être obéi, et à partir du moment où la personne est lucide et consciente, ça doit être le cas en théorie, au moins pour ce qui est des décisions médicales, et puis faire connaître sa volonté même quand on n'est plus en état de l'exprimer. Donc là il faudra soit un papier, soit un écrit, soit une personne qui va nous représenter, et nous allons voir dans quelles conditions cette personne peut nous représenter.